Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. E-message sur un PC, ça paraît dingo, mais c'est possible, enfin presque, grâce à Microsoft et à la dernière mise à jour de Windows 11. Pas sûr que ça réjouisse beaucoup de monde chez Apple. En deuxième partie d'émission, Nicolas va nous dire que c'est mal de pirater, alors s'il vous plaît, arrêtez de télécharger illégalement des logiciels d'Apple, parce qu'ils sont pleins de malware. Pas de panique, on va tout vous dire après le flash info. Nous sommes le mercredi 1er mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple garde jalousement pour elle son application Message. C'est devenu un argument commercial et même une pression sociale pour tous ceux qui ne veulent pas devenir une bulle verte synonyme d'Android. Mais Microsoft a trouvé un moyen d'intégrer la messagerie d'Apple dans Windows, enfin c'est une façon de parler. La dernière mise à jour de Windows 11 ajoute en effet le support de l'iPhone dans Phone Link. C'est un logiciel qui permet d'utiliser des fonctions d'un smartphone sur son PC. En l'occurrence, il est maintenant possible de passer et de recevoir des appels avec un iPhone et aussi d'envoyer et de recevoir des e-messages. Après le jumelage avec un iPhone, le logiciel de Microsoft reproduit l'interface de l'app Message, plus besoin d'utiliser le téléphone, tout se fait depuis le PC. Toutes les fonctions ne sont pas à rendez-vous, on n'a pas droit aux conversations de groupe, à l'envoi de photos ou de vidéos, ou encore à l'historique des discussions. C'est quand même plus du dépannage qu'autre chose. Microsoft indique que cette nouveauté se limite pour le moment à une poignée de testeurs, mais qu'elle sera disponible plus largement dans un proche avenir. Enfin, si Apple n'envoie pas son armée de ninjas à Redmond avant. Les AirTags ont permis de révéler une petite combine malhonnête d'une entreprise de recyclage. Cette entreprise s'appelle Dow et elle promettait de recycler des baskets envoyées par des enseignes bien connues comme Decathlon en France. Des journalistes de Reuters ont glissé des AirTags dans des dizaines de paires de sneakers. Elles devaient se transformer en pistes de sport à Singapour, mais en fait ces baskets se sont retrouvées vendues sur des marchés en Indonésie. Pas du tout recyclées en fait. Une fois l'arnaque mise au jour, les partenaires de ce programme ont mené une enquête et l'entreprise en question s'est vue retirer le marché. Cette histoire, elle démontre la puissance du réseau localisé et tout l'intérêt des AirTags, y compris pour une utilisation qui n'a pas été prévue par Apple. La Commission européenne a toujours Apple dans son collimateur, mais elle a lâché un tout petit peu de lest. Bruxelles mène depuis plusieurs années une enquête sur les pratiques de l'App Store vis-à-vis des développeurs. La bonne nouvelle pour Apple, c'est que la Commission abandonne son grief concernant les achats intégrés dans les apps. Ils doivent en effet passer obligatoirement par le système de facturation d'Apple, c'est ce qui permet au constructeur de toucher sa commission. Alors l'abandon de ce grief, ça ne veut pas dire qu'Apple a gagné une bataille. En fait, c'est même tout le contraire. Le constructeur a perdu la guerre au complet, vu qu'Apple devra donner aux développeurs la possibilité d'utiliser le système de facturation qu'ils souhaitent. C'est dans le DMA, le paquet de mesures qui sera mis en œuvre l'année prochaine dans l'Union. Par contre, la Commission européenne garde un grief contre Apple et une pratique en particulier. Elle empêche les développeurs d'informer les utilisateurs qu'il est possible de s'abonner ou d'acheter du contenu en dehors de l'application. Actuellement, Apple n'autorise ce genre de communication que pour certains types d'apps, comme dans Netflix par exemple. Bruxelles estime que ces obstacles ne sont, je cite, ni nécessaires ni proportionnés et qu'ils sont préjudiciables pour le consommateur. Est-ce que ça va pousser Apple à en faire plus pour faciliter la vie des développeurs ? Difficile à dire. Mais en tout cas, le constructeur a la possibilité de répliquer à cette nouvelle communication de grief, comme on dit. Les Mac ne sont pas magiquement immunisés contre les virus et les malwares, même si la part de marché d'Apple est très minoritaire. Par rapport aux PC sous Windows, les escrocs s'intéressent à nos Mac, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Une découverte de Jamf a récemment confirmé qu'il fallait quand même faire gaffe. On va justement en parler ce matin avec Nicolas. Salut Nicolas.
Salut Mickaël, salut tout le monde.
Jamf a donc publié un article qui décrit comment des malwares qui minent des crypto-monnaies ont pu s'installer dans des Mac via des copies pirates de Final Cut Pro. Mais déjà, on peut rassurer les auditeurs, Apple a apporté les correctifs qui vont bien.
C'est vrai, Apple a réagi assez rapidement en mettant à jour en fait X-Protect. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'outil de protection contre les malwares qui est intégré à macOS. Et c'est pas du tout nouveau, c'est même plutôt ancien, puisque cet outil remonte à Snow Leopard, donc 2009, je ne sais pas si vous imaginez. Alors concrètement, c'est une liste de logiciels malveillants qui sont connus d'Apple. Donc c'est, voilà, c'est une liste avec des signatures, et donc quand on lance une app sur son Mac, le système vérifie d'abord systématiquement dans cette liste si l'application qu'on lance est un malware connu. Si c'est le cas, il le bloque, sinon il le lance. Voilà comment ça fonctionne. Et son intérêt, c'est qu'en fait, cette liste est mise à jour régulièrement et surtout indépendamment de la version de macOS. Donc ça, ça veut dire que XProtect vous protège même si vous n'utilisez pas macOS Ventura, la dernière version. Et aussi qu'Apple réagit plus rapidement face aux nouveaux malwares, parce qu'il ne faut pas attendre chaque mise à jour du système.
Oui, pas besoin de redémarrer en fait.
Exactement aussi, oui.
Alors, ceci étant dit, on va revenir sur cette découverte de Jamf qui montre à quel point les malandrins sont devenus malins en masquant de mieux en mieux les malwares.
Ah oui, donc ils ont, en fait, les spécialistes en sécurité donc de Jamf ont découvert un malware, enfin découvert non, plutôt ont travaillé sur un malware qui était connu dans des versions pirates de Final Cut Pro. Mais alors la chance qu'ils ont eu, entre guillemets la chance, c'est que les créateurs du malware, en fait, ont diffusé plusieurs versions qui suivaient celles du logiciel d'Apple, en fait. Donc à chaque mise à jour qu'Apple faisait, il y a une nouvelle version de la copie pirate. Et à l'intérieur, le malware, eh ben, il a évolué, en fait, il a progressé au fil du temps, principalement sur deux points. Le processus d'installation et sa discrétion. Donc, par exemple, la toute première version, bah, elle demandait un mot de passe administrateur pour son installation. Le malware demandait ça, en fait, ce qui est un peu louche et ce qui sûrement a créé quelques suspicions de la part des utilisateurs qui ont peut-être arrêté qui n'ont pas donné le mot de passe, et donc ça a bloqué le processus. Après ça, ils ont une solution un peu originale, je trouve. Ils ont fait tourner, en fait, leur mineur de crypto-monnaie en même temps que Final Cut Pro. Alors, l'avantage, c'est que ça évitait de saisir le mot de passe. Et puis, le cryptage de crypto-monnaie, pardon, le minage de crypto-monnaie, ça consomme beaucoup de CPU, mais comme Final Cut Pro en consomme aussi beaucoup, ça se voyait moins. Évidemment, le plus gros défaut de leur point de vue, c'est que le malware ne tournait pas en permanence. Et donc, les dernières versions, c'est les plus intelligentes. Ils ont trouvé un mécanisme assez sophistiqué, mais pour s'installer dans le système sans mot de passe et s'exécuter en permanence, sauf quand vous essayez de jeter un œil.
Ah oui. Et donc, comment est-ce que ça se passe si on veut repérer ce malware sur le Mac ?
Alors ça, c'est justement tout le problème, c'est qu'en fait, ils ont réalisé que plus que le malware lui-même, en fait, il utilise des outils assez simples et connus pour crypter la monnaie. Il n'y a rien pour miner la crypto-monnaie, décidément. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, là où ils sont malins, c'est que comme cette opération demande beaucoup de ressources, ils le savent, ils savent que ça peut déclencher les ventilateurs des Mac portables en particulier, ils savent aussi que ça peut réduire beaucoup l'autonomie des ordinateurs. Et donc un utilisateur infecté, quand il voit ça, il va se demander ce qui peut se passer, et s'il le sait, il sait qu'il peut ouvrir le moniteur d'activité sur son Mac. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application en fait qui liste tous les processus qui sont actifs en temps réel sur son ordinateur, et c'est un bon moyen effectivement de repérer si quelqu'un est en train de miner des monnaies dans votre dos, parce que vous verriez un processus que vous ne connaissez pas qui est fortement activé. Donc pour éviter ça, ils ont mis en place deux techniques différentes. Alors tout d'abord, les processus ajoutés par le malware sont renommés comme des processus légitimes d'Apple. Donc ça, voilà, en gros, il y a une technique qui permet de masquer le processus qui est responsable de la monnaie sous un air. Par exemple, là, ils ont utilisé un nom qui est celui utilisé, un des processus utilisés par Spotlight, le moteur de recherche. Et donc après, évidemment, au premier coup d'œil, on voit ça, on se dit bon, Spotlight travaille, c'est normal que mon Mac fasse du bruit, voilà. Et si même ça suffit pas, ils ont mis en place un mécanisme qui est encore plus tordu, qui surveille en permanence si le moniteur d'activité est lancé. Et quand il est lancé, en fait, le malware est immédiatement coupé, ce qui fait qu'on voit plus sa trace dans le moniteur d'activité. Et du point de vue utilisateur, c'est comme s'il y avait rien d'anormal sur son Mac. Donc il y a le ventilateur, peut-être que son autonomie est réduite, divisée par deux, mais on voit rien de spécial.
Jamf prévient aussi qu'il va falloir s'habituer à subir ce genre de problème sur les Mac, maintenant qu'il roule avec des puces Apple, mais pourquoi ça ?
Alors c'est un argument que j'ai trouvé intéressant, en effet, parce que c'est pas du tout l'explication qu'on pourrait croire au départ. En effet, c'est pas que les puces Apple Silicone sont moins sécurisées, pas du tout, c'est au contraire qu'elles sont trop bonnes. En fait, leur efficience, qui est vraiment excellente, permet au malware de fonctionner dans une plus grande discrétion par rapport au processeur conçu par Intel. Donc concrètement, les ventilateurs vont se faire moins entendre, vont souffler moins fort, l'autonomie va être moins réduite. En gros, c'est tout bénef pour les malandrins qui peuvent collecter plus de crypto-monnaies sans que leurs victimes s'en aperçoivent.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos auditeurs pour éviter ce genre de problème ?
Alors dans ce cas précis, la solution est assez simple, hein, il suffit entre guillemets de ne pas télécharger de copie pirate de Final Cut Pro, ni d'ailleurs de Logic Pro, parce qu'ils en parlent aussi, ils n'ont pas travaillé dessus, mais donc c'est ouais. une app de montage audio fournie par Apple, et qui a été aussi apparemment, qui contient en fait les mêmes malwares, c'est le même auteur qui distribue les deux. Au passage, si vous voulez tester ces deux apps, l'une comme l'autre, Apple propose des démos assez généreuses sur son site, on peut les utiliser ainsi sans limite pendant 90 jours.
Ouais.
Bon, maintenant, si le mal a déjà été fait, alors bah, on peut vous conseiller d'installer un anti-malware pour vérifier s'il a été contaminé. Vous pouvez aussi compter sur Xprotect, comme on disait, Apple fait bien le boulot. Mais néanmoins, dans les deux cas, en fait, c'est des protections a posteriori. Le malware doit d'abord être identifié et connu avant de pouvoir être ajouté à ces listes, quelle que soit l'origine. Et vous pouvez toujours tomber sur une copie encore inconnue, quelle que soit la protection en place. En plus, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est vrai que Jamf expliquait que les auteurs des malwares pouvaient compter en fait sur la complicité des utilisateurs qui savent qu'ils ont piraté et donc ils sont motivés pour installer ces copies, voilà. Et donc, par exemple, ils donnaient un exemple d'un malware avec un fichier README, donc d'instruction, qui expliquait comment désactiver en fait Gatekeeper, donc toutes les sécurités d'Apple, soi-disant pour permettre le lancement de l'app. En fait, c'est pour permettre l'installation du malware. Donc c'est ça le truc, il n'y a pas vraiment de bonne option préventive. La seule chose qu'on peut recommander, c'est de rester aux boutiques officielles et d'éviter les trop bonnes affaires. Si un logiciel est normalement payant et que vous l'obtenez gratuitement, méfiance.
Eh bien, merci et donc prudence quand vous téléchargez des trucs sur les internets interlopes. Salut Nicolas.
Salut Ken.
Et merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.